Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. Dans cette édition, le directeur du renseignement américain, John Ratcliffe, a accusé mercredi soir la Russie et l'Iran d'avoir mis la main sur les données de certains électeurs américains et d'avoir entrepris des actions pour les influencer à l'approche de la présidentielle du 3 novembre. Ne manquez pas notre page spéciale pour ce développement et d'autres aspects de la campagne électorale américaine. Ce sera dans moins de 5 minutes avec Jean-Roger Bion et Lionel Gahima. Au Nigeria, la situation est restée extrêmement tendue mercredi à Lagos, au lendemain de la répression par les forces de l'ordre de manifestations pacifiques qui a fait 12 morts selon Amnesty International et suscité la réprobation à l'étranger. Abdulrahman Dia nous donnera des détails. À 10 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, violente crise préélectorale avec au moins 7 morts et une 40aine de blessés dans des affrontements intercommunautaires qui durent depuis lundi à Dabou, à l'ouest d'Abidjan. Nous y reviendrons avec Yacouba Ouédraogo. En Guinée, la commission électorale a poursuivi mercredi soir la publication des résultats de l'élection présidentielle, semblant donner l'avantage au président sortant Alpha Condé, au terme d'une journée de violence qui a fait au moins 9 morts. Ce sera avec Zakaria Camara, notre correspondant sur place. Au Burkina Faso, des experts de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine ont estimé mercredi, après une semaine d'audit, que le fichier électoral en vue de la présidentielle couplée à des législatives du 22 novembre était fiable pour des élections en confiance. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé mi-août par un coup d'État militaire, est rentré mercredi soir à Bamako après un séjour médical aux Émirats arabes unis, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les partis en conflit en Libye ont convenu à Genève de rouvrir les principales voies terrestres et les liaisons aériennes internes, première mesure concrète annoncée mercredi par l'ONU qui s'est dit prudemment optimiste sur un cessez-le-feu dans le pays. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a revendiqué mercredi la victoire dans sa bataille politique autour de la très stratégique Cour constitutionnelle face à la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila, avec qui il gouverne en coalition. Passant outre protestations du camp pro-Kabila, M. Tshisekedi a écouté au Parlement la prestation de serment des 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle qu'il a nommés par ordonnance en juillet. Les mesures restrictives se multiplient en Europe face à la résurgence du coronavirus. Un confinement partiel entre en vigueur jeudi en République tchèque et un couvre-feu est instauré dans 2 régions italiennes alors que l'Irlande s'est reconfinée mercredi soir. Par ailleurs, un volontaire ayant participé au test du vaccin élaboré par l'Université d'Oxford contre le COVID-19 est mort au Brésil, ont annoncé des sources officielles mercredi, sans préciser s'il avait reçu le vaccin ou un placebo. Oxford a assuré que la phase 3 des tests allait se poursuivre, un comité indépendant ayant conclu qu'il ne présentait pas de risque pour la santé des volontaires. Les homosexuels doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridique par le biais d'une union civile, déclare le pape François dans un documentaire présenté mercredi à Rome. Les homosexuels ont le droit de faire partie d'une famille. Les homosexuels, donc, sont des enfants de Dieu et ils ont droit à une famille. Personne ne devrait être mis à l'écart ou rendu malheureux pour cette raison, a dit le pape. L'astronaute américain Chris Cassidy et Anatoly Ivanishin et Yvonne Wagner, 2 cosmonautes russes de la Station spatiale internationale, ont regagné la Terre jeudi. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. Accusation du coordonnateur des services de renseignement américains contre la Russie et l'Iran, le président républicain Donald Trump a continué à sillonner les États-Unis tandis que son rival démocrate Joe Biden reste en retrait sur le terrain. Mais l'ancien président démocrate Barack Obama a fait mercredi en Pennsylvanie son entrée en campagne pour son ex-vice-président. Et c'est ce jeudi qu'aura lieu le dernier débat très attendu entre les deux candidats. Le Point avec Jean-Roger Bion.
Le directeur du renseignement américain a accusé mercredi soir la Russie et l'Iran d'avoir mis la main sur les données de certains électeurs américains et d'avoir entrepris des actions pour les influencer à l'approche de la présidentielle du 3 novembre. Moscou et Téhéran ont entrepris des actions spécifiques pour influencer l'opinion publique en lien avec notre élection. Nous avons pu confirmer que des informations sur les listes électorales avaient été obtenues par l'Iran et séparément par la Russie, a affirmé John Ratcliffe lors d'une conférence de presse. Monsieur Ratcliffe et le directeur du FBI, Christopher Wray, qui se tenaient à ses côtés, n'ont pas expliqué comment la Russie et l'Iran avaient mis la main sur ces données et n'ont pas précisé comment Moscou pourrait s'en être servi. Monsieur Wray a tenu à assurer que le système électoral américain restait sûr et résistant. À ce jour, plus de 40 millions d'Américains ont déjà voté par courrier ou en personne, soit à quelque 30% de la participation totale en 2016 selon l'organisation indépendante Election Project de l'Université de Floride. Sur le terrain, l'ancien président américain Barack Obama a appelé mercredi les démocrates à ne pas faire preuve de complaisance et à se mobiliser en masse pour permettre à Joe Biden de l'emporter face à Donald Trump le 3 novembre. « Je ne m'intéresse pas aux sondages », a-t-il lancé depuis Philadelphie en Pennsylvanie, rappelant qu'ils étaient favorables en 2016 à Hillary Clinton avant sa défaite surprise. « Beaucoup de gens sont restés chez eux, ont été flemmards et complaisants », a-t-il souligné. « Pas cette fois, pas lors de cette élection », a-t-il martelé à 13 jours du scrutin. Barack Obama a dénoncé un président qui s'est montré incapable de prendre son poste au sérieux. Si Barack Obama a fait son retour en pleine lumière après des mois de campagne virtuelle, Joe Biden n'avait pour le troisième jour consécutif rien à son programme public. Après un déplacement en Caroline du Nord, dimanche, Joe Biden, 77 ans, est rentré dans son fief de Wilmington dans le Delaware. Le président Donald Trump, lui, continuait de sillonner les États-Unis. Le président sortant ne l'avait emporté que d'une courte tête en 2016 en Pennsylvanie, un État potentiellement crucial pour la victoire où il s'est de nouveau rendu mardi soir. Tout ce que fait Biden, c'est rester chez lui, avait raillé le milliardaire républicain sur scène à Erie. Il a pris 5 jours de pause, a-t-il déclaré devant ses partisans. Le président, 74 ans, était par ailleurs mercredi soir à Gastonia, en Caroline du Nord, un autre état clé. M. Trump retrouvera ce jeudi soir le candidat démocrate Biden pour leur dernier duel télévisé à Nashville, dans le Tennessee. Leur premier débat fin septembre avait tourné au désordre. Pour éviter la cacophonie de leur premier affrontement, les micros des deux candidats seront coupés lorsqu'ils n'auront pas la parole, selon la commission en charge de l'événement.
La présidentielle américaine verra à l'œuvre d'importants acteurs les agents électoraux locaux. Déployés dans les bureaux de vote, ils s'assurent que les électeurs ont le droit de voter, suivent le déroulement du scrutin et rendent compte des résultats. Veronica Balderas Iglesias de la VOA se penche sur leur rôle. Le récit est de Lionel Gahima.
Cette période de pandémie, les barrières en plexiglas, les masques et désinfectants pour les mains sont des outils essentiels pour la santé mais aussi pour la démocratie américaine. Angie Maniglia-Turner est la plus haute responsable électorale de la ville d'Alexandria, tout près de Washington.
Nous avons ajouté des marqueurs de distanciation sociale pour nous assurer que tout le monde respecte l'écart des 2 mètres. Nous demandons à tous les électeurs de porter des masques lorsqu'ils entrent dans le bureau de vote. Nous utilisons uniquement des stylos à usage unique, des dossiers de confidentialité jetables.
Ce sont les fonctionnaires locaux qu'elle supervise qui font le travail critique de dépouillement des votes et des bulletins de vote par correspondance. À la mi-octobre, près de 17 000 personnes ont déjà voté en personne. Fatima Matten explique pourquoi elle a préféré voter par anticipation.
Je ne voulais pas risquer que mon vote se perde dans le courrier ou que je remplisse le mauvais formulaire ou quelque chose du genre.
En dehors de ces votes anticipés, un grand nombre votera en personne ou par courrier. La ville d'Alexandrie a formé 600 agents électoraux qui serviront dans 30 bureaux de vote. Le jour du scrutin, le dépouillement commence à 19h dès la fermeture des bureaux de vote. Ici, les bulletins de vote anticipés peuvent être pré-traités pour obtenir des résultats plus rapidement. Justin Cornshield, greffier adjoint de la ville d'Alexandria.
Vérifier que l'électeur a tout fait correctement, que le bulletin de vote a été marqué et retourné avec toutes les signatures nécessaires.
Dans d'autres États comme le Wisconsin ou la Pennsylvanie, le traitement est différent car les bulletins de vote ne sont pas ouverts avant le jour du scrutin, ce qui pourrait entraîner des retards dans l'appel du vainqueur. En Virginie, les agents électoraux payés en moyenne $150 sont également formés pour surveiller les urgences ou les perturbations. Steve Lamb, directeur général des élections à Alexandria.
Vous ne pouvez pas vous placer à moins de 12 mètres de l'entrée d'un bureau de vote. Si quelqu'un harcèle les électeurs dans ce secteur, je leur dirai qu'ils doivent dégager. Mais si cela va plus loin, je ferai appel à la police pour y aider.
Denise Blackburn est aussi responsable chargée des élections.
Nous ne sommes pas ici pour représenter un parti. Nous le faisons au nom de notre État et de nos concitoyens, peu importe pour qui vous votez. Nous voulons simplement nous assurer que vous êtes en mesure de voter en toute sécurité.
En 2018, l'administration des élections a révélé que la moitié des employés des bureaux de vote américains avaient 61 ans ou plus, un groupe plus à risque de COVID-19. Ici à Alexandria, on dit que prendre ce risque en vaut la peine.
Dans le reste de l'actualité, la communauté internationale réagit à la sanglante répression des manifestations au Nigeria. De son côté, Amnesty International a affirmé qu'au moins 12 personnes ont été tuées mardi soir par l'armée et la police nigériane. Abdourahmane Dia.
Amnesty International affirme avoir donné ces chiffres sur la base d'une enquête sur le terrain. Ces morts viennent s'ajouter à au moins 18 autres personnes, dont deux policiers tués dans de précédentes manifestations. Hier encore, plusieurs bâtiments ont été incendiés à Lagos, la plus grande ville du Nigeria. Les autorités y ont décrété le couvre-feu total de 24 heures après plusieurs jours de manifestations qui ont démarré pour protester contre les violences policières avant de s'étendre en un mouvement anticorruption et anti-gouvernement. Le Royaume-Uni, l'ancienne puissance coloniale, s'est dit mercredi extrêmement préoccupé par les informations faisant état de manifestants tués au Nigeria. Londres appelle à mettre fin à la violence et à l'ouverture d'une enquête sur de possibles abus des forces de l'ordre. L'Union européenne et l'ONU ont également condamné la répression de ces manifestations.
En Guinée, alors que la Commission électorale nationale indépendante continue à publier les résultats provisoires partiels, la tension reste vive dans le pays. Des violences sont signalées à Conakry et à l'intérieur de la Guinée. Le gouvernement parle de 9 personnes tuées. Dans la capitale, les appels au calme se multiplient. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Les déclarations s'enchaînent à Conakry. L'Institution nationale des droits humains a rendu public ce mercredi un rapport dans lequel elle recommande plus de responsabilité aux acteurs du processus. Dr Ali Adjabi, président de l'INDH.
L'Institution nationale indépendante des droits humains recommande au gouvernement d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que l'ordre public dans le respect des droits humains, des lois de la République et des standards internationaux. À la CENI, de proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels conformément à son engagement. Aux partis politiques et aux candidats, d'éviter l'apologie de la violence en donnant des consignes claires faire de non-violence aux militants, d'éviter des initiatives illégales de proclamation partisane des résultats de l'élection, d'attendre et respecter les résultats publiés par les instances compétentes.
Dans une vidéo publiée sur Facebook dont je propose ici l'audio, l'opposant Sélou d'Alain Diallo appelle ses militants à continuer la lutte pour, dit-il, défendre sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre.
Mes chers compatriotes, je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré. Toutes les issues sont fermées par les agents de force, de défense et de sécurité. Personne ne peut entrer dans mon domicile, personne ne peut en sortir. Alpha Condé a décidé. Ainsi, c'est contraire à la loi, c'est une violation flagrante de mes libertés.
L'UFDG, parti de Sélou d'Alain Diallo, a publié mercredi ses propres résultats des urnes. Des résultats qui le donnent vainqueur du scrutin présidentiel avec 53% des suffrages valablement exprimés. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Côte d'Ivoire a plongé dans une crise préélectorale avec au moins 7 morts et une quarantaine de blessés dans des affrontements intercommunautaires qui durent depuis lundi à Dabou, à l'ouest d'Abidjan, à 10 jours de la présidentielle. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le maire de Dabou, Jean-Claude Yédé Niaye, a mentionné des tirs de fusils d'assaut. Le préfet Réminzi Kanga a évoqué une milice armée de Kalachnikov, soulignant que les jeunes de la région n'ont pas ce type d'armes. Selon des témoignages d'habitants, les premiers troubles ont commencé lundi et ont dégénéré en affrontements intercommunautaires mardi entre Adiukru, ethnie locale favorable à l'opposition, et les Dioula, ethnie du Nord réputée pro-Ouattara. Le président sortant Alassane Ouattara se présente pour un troisième mandat contesté par ses opposants. L'opposition a estimé que la médiation ouest-africaine venue à Abidjan a été un échec et a demandé à ses militants d'intensifier les actions de désobéissance civile. Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture à une négociation internationale, a déclaré Pascal Affine-Guessant, candidat à la présidentielle du 31 octobre. Il a évoqué une intervention de l'Union africaine et de l'ONU et a nié au gouvernement la légitimité pour organiser des pourparlers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'équipe nationale des Abîmes du Cameroun a un nouvel entraîneur depuis hier. Il s'appelle Martin Tungu Mpilé, qui remplace à ce poste Yves-Clément Aroga, dont les résultats ont été jugés insuffisants à 3 mois du début du charme qu'habite le Cameroun dès le 16 janvier prochain. Les précisions à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Gilentap.
C'est au cours d'une réunion d'évaluation à mi-parcours de la préparation de la sélection nationale A' que la décision de changer une partie du staff a été prise, a-t-on appris mercredi soir, dans un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique, lu sur les ondes de la chaîne publique. Le même communiqué mentionne que les performances de l'entraîneur des A' ne sont pas conformes aux attentes du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. À titre conservatoire, Martin Tungu Mpilé a été désigné comme nouvel entraîneur principal des A', alors que David Pagou a été porté aux fonctions du deuxième entraîneur adjoint. Ces dernières semaines, l'équipe A' du Cameroun a essuyé de vives critiques du public. En match amicaux préparatoire du CHAN, elle a été défaite contre le club local de Panthère Dundé, 0 but contre 1, effet score de parité 0-0, en aller et retour contre le Soudan du Sud à Yaoundé. Yaoundé, Emmanuel Gilda, VOA Afrique.
Le club marocain du Raja Casablanca a annoncé qu'il ne pourrait pas se rendre en Égypte pour y disputer sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Zamalek, car 8 de ses joueurs ont été testés positifs au Covid-19. Le Raja a perdu 1-0 à domicile sa demi-finale aller dimanche contre le Zamalek et devait se rendre au Caire cette fin de semaine pour y disputer son match retour samedi. Parmi les joueurs testés positifs figurent 4 titulaires de la demi-finale aller, le défenseur Ilyas Haddad, les milieux de terrain Omar Arjoun et Moussine Mouchouali et l'attaquant Abdelila Hafidi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, polémique autour du bilan de la répression sanglante à Lagos, Abuja, Kano et Ibadan. Certains avancent le chiffre de 41 morts et d'importants dégâts matériels. L'armée est accusée d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants à Lagos. Des compagnies aériennes comme Delta et Kenya Airways ont annoncé l'annulation de leurs vols sur le Nigeria. D'Abuja, mercredi, notre correspondant Gilbert Tamba.
La journée du mardi aura été la journée la plus meurtrière depuis que les manifestations contre les violences policières ont commencé le 8 octobre au Nigeria. Des milliers de Nigériens, notamment des jeunes, descendent chaque jour dans les rues pour protester contre le gouvernement fédéral. Réaction d'une manifestante.
Ils utilisent des gaz lacrymogènes contre nous. Nous avons faim. Nous n'avons pas d'argent pour payer nos frais de scolarité. Les femmes souffrent et cela fait longtemps que nous souffrons.
À Lagos, ce matin, les violences ont repris. Les manifestants ont été dispersés par des coups de feu. Une station de télévision TVC appartenant à une personnalité du parti au pouvoir a été incendiée, ainsi que la maison de la mère du gouverneur de Lagos, entre autres. Ces incidents surviennent en réponse à une attaque des éléments de l'armée nigériane contre les manifestants sur un péage de la capitale économique, faisant plusieurs blessés selon des témoins.
On a reconnu ceux qui étaient là. Ils étaient en tenue militaire. C'était des militaires. Nous étions couchés au sol, levant nos drapeaux en leur disant que nous manifestons pacifiquement. Malgré tout, ils tiraient contre nous. Ils ne le faisaient pas pour nous disperser, mais pour nous tuer.
Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer qui aurait donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Tel le gouverneur de l'État, Babajide Sanwo-Olu, a pris la parole pour appeler au calme.
Je lance un appel à nos citoyens, particulièrement nos jeunes, pour leur dire que je suis pour vous, je suis avec vous. Je ressens votre peine et je comprends que vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé. Je veux vous dire encore une fois qu'en tant que votre gouverneur, je ferai tout pour assurer que chaque vie compte.
À Abuja, c'est un calme précaire qui règne. Beaucoup de résidents de la capitale fédérale ont préféré rester chez eux. Le bilan des manifestations est lourd au lendemain de ce qu'on pourrait appeler des mardis noirs. On parle des 41 morts au total dans les états de Lagos, Abuja, Kano et Ibadan. Le conseiller du président nigérian sur les affaires du Delta du Niger appelle les manifestants à la table de négociation. Ita Enang.
Je joins ma voix pour demander à tous les Nigérians qu'il est temps de quitter les rues. Vous avez toujours le droit de protester dans le respect de la loi, mais il est temps de venir à la table des négociations pour qu'ensemble nous parlions des problèmes en question.
Les autorités fédérales ont approuvé le déploiement des éléments de la police anti-émeute et de l'armée dans tout le pays afin de protéger les Nigérians et des biens. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 31 octobre. L'opposition, qui laisse planer le doute sur un boycott du scrutin, a appelé le 15 octobre ses militants à une campagne de désobéissance civile et à boycotter les opérations électorales. Depuis plusieurs jours, des manifestations parfois violentes ont eu lieu dans plusieurs localités. Bagassi Koura a joint Maître Abdoulaye Ben Meïté, député du RHDP, qui dit ne pas parler au nom de son parti.
De mon point de vue, la campagne se déroule tout à fait bien. C'est vrai que par endroits, il y a l'expression de cette mauvaise foi de partis d'opposition, qui en lieu démocratique est attendu de ces partis d'opposition, qu'on soit dans la voie de la violence, la voie de l'insurrection, qui, de notre point de vue, contraste véritablement avec les choix démocratiques qu'ils allèguent et derrière lequel ils semblent se réfugier depuis le moment. Nous avons 4 candidats en liste, dont le favori, donc le président Alassane Dramane Ouattara, qui donc est en train de battre campagne présentement dans de bonnes conditions. C'est lieutenant que nous sommes sur le terrain. Moi, je suis actuellement dans ma circonscription électorale, donc qui est Kanou commune sous préfecture. Nous sommes en train d'expliquer à nos concitoyens Le programme va dire que constitue effectivement le programme du candidat à la Ouattara.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que ce troisième mandat de Alassane Ouattara est anticonstitutionnel?
Vous savez, depuis un moment, et c'est dommage, nos concitoyens s'érigent en constitutionnalistes ou même en juristes. J'ai eu l'honneur en tant qu'avocat d'assurer la défense donc du candidat à la Alassane Ouattara devant la Chambre, devant la Cour constitutionnelle. Je pense que les éléments que nous avons invoqués sont suffisamment éloquents pour traduire que le droit est effectivement du côté du président de la République dans sa volonté de candidater. En réalité, c'est un refuge parce que l'opposition sent sa faiblesse devant ce ouragan que constitue notre candidat. Et je pense qu'il cherche parce que l'opposition n'a pas d'autre choix. L'opposition s'est inscrite véritablement dans et visiblement dans une poursuite insurrectionnelle, et c'est parce qu'ils s'étaient perdus, c'est parce qu'ils n'en ont pas effectivement eu l'opportunité.
Alors, vous avez dit que votre candidat, Alassane Ouattara, est favori. Est-ce que vous ne craignez pas que ces manifestations puissent ternir un peu sa victoire au cas où il gagne?
C'est justement cela, le jeu de l'opposition. Mais je pense que nous sommes dans un jeu démocratique. La démocratie, c'est l'expression de la volonté du peuple par la voix des urnes. Et vous savez, dans un processus démocratique, quelle légitimité vous pouvez accorder à des attitudes d'insurrection? Parce que l'insurrection et les violences qui sont en cours en ce moment contrastent véritablement avec le jeu démocratique.
Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat et député du RHDP en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Depuis lundi, un événement annuel, Semben à travers l'Afrique, est consacré au cinéaste Ousmane Semben pour le faire connaître aux nouvelles générations en vue de perpétuer sa conscience africaine. L'initiative est organisée à partir des États-Unis. Lancée depuis 2017, elle regroupe une centaine d'organisations, d'écoles, d'universités et de particuliers. Projections de films, débats, séminaires sont au rendez-vous dans plusieurs pays africains jusqu'à vendredi. Pour en savoir davantage, Eric Manira Kidza a joint dans le Massachusetts le professeur Samba Gadjigo.
Le message de Semben est très 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 simple. Il y a, si vous voulez, c'est une sorte de critique. D'abord, il faut que les Africains retrouvent leur indépendance, l'indépendance économique, l'indépendance politique, se défaire de l'occupation étrangère. Que Semben fait partie de ceux qui étaient vraiment convaincus que l'Afrique ne pourra s'épanouir en fait qu'en mettant la main dans la main, que tout le continent se réunisse et que nous mettions ensemble toutes nos ressources.
Il y a des films que vous projetez, Rala, Mandabi, même un documentaire sur Semben lui-même. Quels sont les messages clés?
Le documentaire, c'est pour exposer les gens à Ousmane Semben, son œuvre, son parcours, etc. Ensuite, nous avons Mandabi, qui est son premier film long-métrage dans une langue africaine, Wolof, en 1968. Donc là déjà, le fait même qu'il fasse le film en Wolof, cela veut dire qu'il pensait que la littérature écrite en langue européenne pour les Africains ne pourrait pas du tout porter le message. Mais le mandat, plutôt, je préfère le titre en anglais, The Money Order, c'est montrer comment le Sénégal et tous les pays africains sont en train d'être phagocytés dans un système qui fait qu'ils deviennent aliénés dans leur propre société. Ça, c'est le mandat. Ensuite, maintenant, à peu près une décennie plus tard, en 1975, il fait Khala. Khala, c'est basé sur une histoire vraie. C'est en fait la passation de service en 1970 entre le président de la Chambre de commerce à l'époque qui était français et le premier président de Chambre de commerce qui était sénégalais. Or, la France a occupé cette Chambre de commerce de 1888 jusqu'à 1970. Et Semben montre là justement que cette transition, elle n'est que spectaculaire, mais que derrière, c'est toujours la France qui continue à tirer les ficelles. Et que notre bourgeoisie n'en est pas une, parce qu'elle n'est pas créatrice de richesses, mais elle est plutôt consommatrice. C'est une bourgeoisie comprador. Et il montre comment cette bourgeoisie-là, africaine, est tiraillée entre ce qu'ils appellent la modernité et la tradition, les différentes tensions qui qui existent, leur manque de vision, leur manque d'initiative.
Le professeur Samba Gadjigo, membre de l'initiative Semben à travers l'Afrique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, voilà c'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segunia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.